sans contrefaçon, maquillée comme mon fiancé. Le grand choc.
Éphémère, 25 ans qu'on se la pète.
Bonjour et bienvenue sur FMR, nous sommes le samedi 28 octobre 2006 et que va-t-on vous fourrer dans les oreilles aujourd'hui?
Maintenant!
Le supplément week-end avec l'actu BD, télé et cinéma et baston, pardon, c'est du DVD?
C'est du DVD!
Ah merci!
Et suivi de...
Ça c'est du sport, à 13h les résultats en direct des stades, des vestiaires et de l'infirmerie.
Et ensuite...
À 15h du mix avec je ne sais plus trop quoi, puisque, Thomas, t'étais pas censé finir un grill, hein?
Si, mais j'ai déposé dans la boîte aux lettres.
Ah, merci, t'aurais pu me la laisser, quoi. 17h Big Bang, à 18h Vie d'ordure, à 19h on est chez nous, 20h la CTRO Experience, 21h30 Stay Tuned, et ensuite de la drum and bass jusqu'à plus soif à 5h du matin. Qu'est-ce que vous voulez? Et si vous préférez sortir, eh ben, sachez qu'il fait plutôt beau aujourd'hui. On est contre 20 degrés, on est dernier week-end d'octobre, mais c'est absolument intenable.
FMR, la French Independent Radio Libre since 1981.
Donc du coup, j'ai zappé Zarma Faraï, il va m'en vouloir, Poupa Christopher, il va m'en vouloir. Merci du sport, merci. Et vous écoutez FMR sur 89,1 MHz, nous sommes en direct de midi à 5h du matin et on continue sur www.radio-fmr.net. Bonjour Thomas.
Salut Xavier.
Bonjour du sport.
Et remonter.
D'accord, ça va bien calé, ça tombe bien parce que aujourd'hui on va sortir les sabres de combat, on va sortir aussi de la BD asiatique et plein de choses, vous allez voir, on a une programmation qui est assez allumée et on va vraiment se faire plaisir. Bref, c'est le supplément week-end Radio FMR, saison des 25 ans et quand même, hein, la semaine dernière t'étais pas là, c'était assez chaud.
Oui, l'interview était assez énorme.
Excuse-moi.
Fly over, fly over.
Chant.
Fly over, fly over.
Stop on the gas, kick down the accelerator.
Sing.
Fly over, fly over.
Don't wanna get back, that's the one I can't capture.
Chant.
Fly over, fly over.
Stop on the gas, kick down the accelerator.
Sing.
Fly over, fly over.
The transmetropolitan, get out of my way. There ain't enough hours in my day. The city's on fire in the pouring rain. Steam is rising faster than a runaway train.
In the ballet on the shishi by computers and machines. The bloody turf war machine for the Gucci. I get a behind the wheel away, never going home. Skinniness, loneliness at the transit zone.
Fly over, fly over.
Stop a nigga, step down in your accelerator.
Fly over,
fly over. Don't wanna get mad, I'm the one that get captured. Fly over, fly over. Step on the gas, get down the accelerator. Fly over, fly over. Don't wanna get mad, I'm the one that get captured.
Speeding through the invisible 20%. Watch a race between the guilty and the innocent. Rubbing shoulders with the super class engines. Burning up the Urals in South Kensington. Choking up all of the fire, smoking on the air. Some days you'd rather be anywhere but here. Choking up all of the fire, smoking on the air. Some days you'd rather be anywhere but here.
Sing!
Fly over, fly over.
Step on the gas, get down the accelerator.
Fly over, fly over.
Don't wanna get mad, I'm the one that can't capture.
We'll be right back.
place to be. I tell them London City. Fly over, fly over. Step on the gas, get down in your celebrator. Fly over, fly over. I wanna get back, not I wanna get captured. I wanna be down to the station and the show call me tight. You only wanna go where there's plenty of light. Asking for direction, but I'll tell you the wrong way. You know there's never time. You know there's never enough hours in a day. You know there's never enough hours in a day.
Asia Dome Foundation, extrait de dernier album Tank qui est sorti l'an dernier déjà, et oui, Fly Over. C'est moi qui commence avec la revue de presse, ma foi. Avec d'abord deux livraisons de Canal BD Magazine. D'abord un hors-série, numéro spécial autour des 20 ans des éditions Delcourt. Il y a 10 ans, pour les 10 ans de Delcourt, ils avaient sorti un bouquin qui s'appelait La Fabrique Delcourt, avec une exposition absolument monumentale à Angoulême. Et le bouquin en lui-même était une édition ultra limitée qui est un vrai bonheur. Moi, je ne regrette absolument pas de l'avoir acheté parce que voilà, c'est là où on a pratiquement toute la Dream Team de Delcourt qui réunit en un seul livre de l'époque. Et donc, ils font des opérations spéciales justement autour de leurs 20 ans, et notamment cela passe par ce numéro spécial de ce magazine qui est vendu chez les libraires spécialisés en bande dessinée. Mais l'édition normale du Canal BD, elle, et aussi chez vos libraires, daté d'octobre-novembre, c'est un numéro 50 autour du président. Lewis Trondheim, l'interview du président, avec une couverture assez pompière, y a pas à dire. C'est bon. Et Lewis Trondheim, on le connaît comme fouteur de merde. Mais alors, grave, un point, vous ne pouvez pas savoir. Alors, comment ça va se passer cette année, le festival d'Angoulême? Est-ce que cette année, ça risque pas un peu de bouger? Voici la réponse de Lewis Trondheim. Cette année est un peu compliquée pour le festival. Pas seulement parce que le maire est UMP et la région de gauche. Pas parce que le nouvel emplacement va nécessiter un budget bien plus grand. Pas parce que, d'ailleurs, l'emplacement, je crois qu'il a encore changé depuis. Pas parce que cette crise de croissance peut lui être fatale. Pas parce que la neige risque encore de tomber. Ça rappelle quelque chose. Mais parce que je suis là et tout le monde sait que je suis un emmerdeur grave. À ça, on est quand même bien placé pour le savoir. Mais je vais vous dire, Lewis Trondheim, il a débuté petit, et notamment il a débuté à l'association où il est à la fois auteur et éditeur. Et donc l'interview qui est menée pour le magazine Canal BD, l'intervieweur lui pose la question: comment cela se passe-t-il? Ce que l'on pouvait au départ éditer qu'à l'association est devenu envisageable chez d'autres éditeurs. En conséquence, nous assistons depuis un moment à une sorte de radicalisation de ce que nous publions à l'association. À mon avis, c'est pas que ce qu'il publie à l'association qui se radicalise. Et Lewis Trondheim, effectivement, travaille pour plusieurs éditeurs. Alors, est-ce qu'il a le sentiment de proposer aujourd'hui quelque chose de différent entre ce qu'il propose chez Delcourt, où il est directeur de collection, et ce qu'il fait chez Dargaud et chez d'autres éditeurs comme Le Seuil? Et c'est avant tout une question d'affinité. Récemment, je me suis fait tirer les oreilles par Jean-Christophe Menu lorsque j'ai annoncé un projet autobiographique, Les Petits Riens, dans la collection Shampoing chez Delcourt. Je pourrais en faire un livre de 200 pages tellement qu'il y a eu des rebondissements. À mon avis, je ne sais pas, mais quand il commence à parler de ça, c'est que franchement, ça a dû chauffer entre lui et Jean-Christophe Menu, je pense. Thomas, oui, qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu m'agites des feuilles? D'accord, oui. Ok. Donc je crois que cela s'appelle le JT.
And now, the news.
Le Flash BD vous est présenté par Thomas Berthelon sur Radio FMR. Bonjour Thomas.
Bonjour Xavier. L'info du jour: Lewis Trondheim quitte l'association L'Éditeur Indépendant. Dans la foulée, Johan Sfar annonce aussi son départ après les remous lors du passage de David B chez Casterman. Des quatre fondateurs de l'association, ne reste que Jean-Christophe Menu. Aurait-il fait le vide autour de lui?
C'est narquois comme question. commencer sortie bande dessinée dans le supplément week-end sur Radio FMR avec le tome 8 de Gunman Last Order, toujours traduit chez Glénat, et c'est une œuvre absolument magnifique de Yukito Kishiro. Je rappelle que Gunman Last Order est la série fille de Gunman, qui est donc l'œuvre qui a fait connaître cet auteur, et que Gunman en japonais ça veut dire l'esprit du flingue. Et donc on retrouve Gally qui, en piratant l'ordinateur central de Geru, la cité dans les étoiles, à la recherche de l'âme de son ami, Gally va rentrer dans la mémoire du plus ancien ordinateur connu, Merlin. Dedans, elle va accéder au passé le plus profond de l'ère cybernétique. L'hiver qui a suivi le choc d'un astéroïde sur la Terre, une planète glacée, une période glaciaire quasi nucléaire où la civilisation n'existe qu'à l'état de quelques traces, où les humains y ont fort à faire pour subsister, et où la sauvagerie est devenue pour certains une nécessité. Et là, Kishiro transforme sa science-fiction en un conte vampirique. Dès la couverture de sa première série, où il plantait son univers, Gunman, Yukito Kishiro faisait référence à Hajime Sorayama, l'illustrateur japonais fou qui dessine des femmes absolument magnifiques, à moitié corps métallique, à moitié corps de chair. Et les autres couvertures avaient toujours ces tons soit cyberpunk, soit des couleurs saturées ou des références flamboyantes comme la bande dessinée Slane. Sauf que là, cette couverture noir, blanc et argent tranche littéralement. On change complètement d'ambiance. Loin d'un cyberpunk débridé, nous lisons une histoire lyrique, toujours aussi sanguinaire, mais avec des personnages riches en sentiments. La déconnexion avec Gally et ses amis est quasi totale, s'il n'y avait l'introduction de ce 8e tome. Exprès, je ne vais pas vous faire un résumé de cette mise en abîme. Les surprises que vous y trouverez y sont d'autant plus agréables. Et on sent bien qu'il y a une progression inéluctable dans l'histoire, un enchaînement d'événements à venir. Kishiro étend les possibilités de son univers favori et il le fait avec bonne intelligence. Yukito Kishiro, Gunman Last Order, volume 8, c'est chez Glénat. Claude au scénario, Denois Frébourg au dessin, ce sont deux jeunes dessinateurs, deux nouveaux talents, les carnets de George Weiss, le testament du Dr. Weiss, et aux éditions Petit à Petit. On est à la fin du 19e siècle, où les lumières de la science éclairent de leur rationalité la Terre entière. Ou presque, car dans ce brumeux mois de novembre, une sombre histoire va appesantir l'ambiance d'un petit village de pêcheurs complètement à l'écart de tout. Tout commence lorsque deux poivrons repêchent le corps du docteur Weiss, un original qui a sa propre île au large. De sa famille, seul George Weiss y fait une étape forcée pour s'occuper de l'inhumation et les formalités de l'héritage. En fait, il est venu par l'insistance du notaire. Pourtant, même si cet homme cynique, grand aventurier, en a vu d'autres, il n'aura vraiment pas le temps de s'ennuyer dans ce petit bourg. Puisque le soir de son arrivée, il semblerait que son grand-oncle sème des cadavres dans le vieux port. Livide, avec de curieuses marques au cou. Pour ajouter à l'ambiance qui n'a pas l'air de plaire à George Weiss, il faut aussi compter l'antipathie du commissaire, la méfiance des habitants et l'insistance du maire pour faire don de l'île à la commune. S'il n'y avait qu'Amumi, la fille de l'aubergiste, le lieu serait parfaitement détestable. On n'aime pas les étrangers, on a une bonne raison à ça. À toi y rester, George risque de déterrer de sales histoires. Graphiquement, c'est un bonheur. L'ambiance fantasmagorique est parfaitement rendue par le dessin nerveux et haché de Benoît Frébourg. L'ambiance, assez proche des contes de Edgar Allan Poe, est très bien amenée par l'intrigue angoissante de Claude. Du coup, on aimerait beaucoup que cette histoire ne soit pas qu'un one-shot et trouve vite la suite des carnets de George Weiss, car les deux auteurs sont vraiment sur la bonne voie, celle d'aiguiser notre goût du mystère et d'une curiosité morbide. Claude et Benoît Frébourg, les carnets de George Weiss, le testament du docteur Weiss, c'est aux éditions Petit à Petit.
De Strasbourg.
Merci.
alors celui-là.
Oui, celui-là, je sais, il a claqué, mais pourtant les deux autres avant sont tout aussi bons.
Ouais,
hein,
j'ai
quand
rien
même
à foutre. Celui-là.
Non, je ne veux pas savoir, ou alors pas à l'antenne, on règle nos comptes après, en dehors, t'es gentil, merci. C'est vous dire si franchement, quand on le voit dès la première fois, quand on regarde seulement les. Au hasard, on feuillette un peu au hasard les pages. Cet album est vraiment absolument grandiose et il fait peur. Il n'y a pas d'autre terme, il est absolument magnifique. Il s'agit de Mi Jeong de Byun Byung Jun. C'est dans la collection Made in chez Kana et c'est un chef-d'œuvre qui nous vient de Corée du Sud au moment où son encombrant voisin du Nord fait parler de lui à coup de péril atomique. Ça n'a rien à voir. C'est un recueil d'histoire d'un dessinateur extrêmement talentueux, capable d'utiliser de manière absolument étourdissante différentes techniques. Il y a de la peinture, il y a de l'encre, d'ailleurs à la plume ou au pinceau. Et il est reconnu en dehors de son pays natal puisqu'il a déjà été plusieurs fois publié au Japon et primé internationalement. Pourtant, ça respire pas vraiment la joie de vivre à l'intérieur. Des histoires courtes, mélancoliques, où il est question de rupture, de mort et d'amour. Que cela soit Yeondu, jeune fille devenue actrice de porno, de jeunes lycéens aux envies morbides, d'un dessinateur groggy de fatigue ou d'un chat amoureux, ce sont des êtres à la dérive en dehors d'une normalité imposée par la société, dans la lueur blafarde des villes et déshumanisées par leur taille ogresque. Les destins iront forcément vers le tragique, le sordide, mais peut-être trouveront-ils finalement une issue heureuse. J'ai remarqué son travail extraordinaire lors du festival d'Angoulême en 2003, où il fut invité, puisque la Corée du Sud y était allée en très forte délégation et avait pris la peine de traduire et d'imprimer des bouquins, et vraiment, c'était pris une baffe, c'était collectif. Et c'est un bonheur de savoir que son travail est traduit en France et il est édité, publié, disponible en librairie, voilà, parce qu'on reste dans les histoires de la quotidienneté, qui est parfois au glauque. On s'y retrouve, ou peut-être on se dit que son voisin pourrait être acteur d'une histoire similaire. C'est ce qui en fait la force de ces récits courts. On est tellement happé par ces histoires que l'on trouve bientôt tout à fait normal le travail graphique absolument extraordinaire de Byung Byung Jun, car cet auteur complet a un don absolument bluffant. Celui d'être un illustrateur d'exception, quelle que soit la technique qu'il emploie, ses histoires sont tristes, son destin est absolument réjouissant. Byung Byung Jun, Mi Jeong, c'est dans la collection Made in chez Kana. Riku Sanjo au scénario et Koji Nada au dessin. Beat the Vandal Buster, le tome 1 vient de sortir chez Kana, c'est une nouvelle série. Bon, alors forcément, c'est une nouvelle série qui est parue dans l'hebdomadaire japonais Shonen Jump. Donc, techniquement, le chroniqueur est tout à fait prévenu qu'il va entamer une bande dessinée qui s'adresse à des collégiens et que ça va pas péter très haut. En fait, les auteurs s'en expliquent dès la préface, le désir de créer un univers médiéval fantasy sans s'encombrer d'un carcan déjà existant comme ils l'ont fait pour Dragon Quest. Le prétexte, pardon, l'intrigue, j'italicise le mot. Les humains sont attaqués par des démons particulièrement puissants dénommés Vandel. Pour les combattre a été créée la confrérie des Busters. Des guerriers qui, plus ils butent du démon, plus ils gagnent en expérience. C'est le bon vieux retour du système Donjons et Dragons.
Salut, je suis Elf Ranger niveau 6.
Bonjour, je suis Ningari niveau 5.
Va chier, Nabo.
Oh, tu veux tâter ma H+2, Tarlouze ? Avec toutes ces dérives grobilesques.
Moi, barbare niveau 22, puissant.
Avec une épée plus 30 ? Mais tu l'as chopé où ? T'as payé le maître du jeu ?
Iron Maiden.
Me disais aussi, ça manquait de crétins.
Iron Maiden.
Calme. Pour justement ne pas s'encombrer de cette artificialité des calculs de XP, points d'expérience, une astuce a été trouvée par les auteurs pour l'intégrer naturellement à l'univers. Les personnages sont des chasseurs de primes. Certains monstres ont une plus ou moins grosse prime sur leur sale tronche. Et en fonction de l'argent gagné en la ramenant plutôt morte que vive, eh ben on lui fait un branding. Si. Tu sens l'expérience à l'odeur de ta chair brûlée. Pour signifier que, oui, je suis niveau 5, ça se lit sur mon torse huilé. Et puisqu'on est dans une manga de finesse, le Buster a droit à une arme bonus spéciale anti-vandale. Et il la cache dans son corps parce que, vu la taille des engins, ben c'est pas très pratique à trimballer sinon. Bête est un gamin, pardon. C'est Beat, je crois qu'il faut dire, j'allais dire Bête. Est un gamin dont le village est incessamment harcelé par des démons particulièrement puissants, menés par le vandale Beltorz. C'est ce qui le motive pour justement se faire marquer comme Buster, au grand désespoir de sa famille et à la grande fureur de sa petite amie Poala. Faut dire aussi que le jeune garçon, en plus d'être totalement inconscient, est capable de veiller plus de 3 jours et nuits non-stop. C'est un tougher accompli, quoi, à la limite. L'ennui, c'est qu'il doit dormir une journée complète après ça. En fait, il tombe littéralement de sommeil, de préférence dans une situation particulièrement périlleuse. Heureusement, arrivent en ville des vrais, des pros, le groupe de guerriers des Zénons, au moins niveau 60.
Puissant !
Et malgré cela, ils vont se faire laminer face à Beltorz. Alors t'imagines un gamin niveau 1, coucou, qui risque à tout moment de piquer un roupillon. Bon, allez, pour être honnête, la lecture est divertissante, joue avec les codes du genre, y met un peu d'humour, mais on sent bien que l'idée, c'est aussi d'être adapté en dessin animé, mais surtout en jeu vidéo, voire en jeu de cartes à collectionner. Bref, le désir d'épanouissement commercial a fortement dicté le scénario. D'où les références très précises à des canons du jeu de rôle. Bon, le problème des XP, c'est que celui qui tue le monstre, eh ben c'est lui qui les empoche.
Alors je me fais chier à débusquer le monstre, à le harceler, à l'aveugler avec des flèches, à l'assourdir en visant les tympans, à lui faire perdre du sang et j'ai 0 XP parce que le barbare l'a tué d'un coup de coude. Merci travail d'équipe.
T'es gentil, hein, moi j'ai 0 et c'est le barbare qui rafle tout.
Baston.
Non. On revient après une interruption musicale. Dionysos, pardon, oui Thomas.
Sinon, moi j'avais, moi j'ai pas lu la BD dont tu parles, mais en fait le seul intérêt, d'après ce que j'ai compris, de cette BD, c'est que ça, c'est une ressourcée des codes du jeu vidéo, et quel intérêt après de le remettre en jeu vidéo alors qu'il y a aucune originalité.
Ben la licence, bien sûr.
Se disait coiffeur d'oiseaux, elle se cachait dans les branches, elle attrapait tous les oiseaux, elle découpait tout plein de formes, n'importe comment dans leurs ailes, avec ses ciseaux de couture et un joli petit peigne. Cogner dans les branches et se cogner même entre eux. Certains se fracassaient par terre en atterrissant à l'envers. L'un d'eux dans la roue d'un vélo, comme un poney dans les rayons, faisait penser à une coiffe de chef indien ensanglanté.
Carlos, coiffeur d'oiseau, un message sponsorisé par les artisans de France et de Navarre. La chronique cinéma en Dolby Mono Surround vous est présentée par Thomas.
Et aujourd'hui, nous allons attaquer du cinéma encore asiatique avec des lames et des épées de partout.
Il n'y a pas eu assez de BD asiatiques, là, il y en a eu trois.
Et du sport, on va commencer avec Seven Swords, du grand, du magnifique Soyark.
Ah ouais, mais est-ce que tu me l'as ramené là, parce que j'ai toujours pas vu.
Alors moi je suis dans
l'impossible. Cette émission n'est pas une bibliothèque de prêts, nos auditeurs n'en ont strictement rien à foutre.
Nous expliquerons hors émission à du sport pourquoi je n'ai pas le DVD ici. Pardon. Alors, donc du sport n'a pas vu, et il est disponible justement chez Pathé Vidéo. Et c'est un film de Soyark avec Donnie Yen, Leon Lai, Liu Chalang qui joue dedans, le grand chorégraphe de la 36e chambre de Shaolin, les disciples de la 36e chambre de Shaolin, et retour à la 36e chambre de Shaolin. C'est la trilogie idéale pour les soirées pizza. Et la magnifique Charlie Young. Alors, ça raconte l'histoire du 17e siècle avec Mononoke derrière. Les Manchus instaurent la dynastie Qing et décrètent les arts martiaux hors la loi. Chargé de faire respecter cette loi, un général sanguinaire, Firewind, dirige une armée d'assassins pour revendre les têtes des tués aux enchères.
Jusqu'où... Ah, sympa comme business.
Ouais. Il dit, tiens, il faut les plaques aussi pour les nominer et tout. Sauf qu'il y a un mec au début de film, il prend les plaques. Donc merde, on sait plus qui c'est. Jusqu'au jour où les membres d'un village persécuté font appel au maître du monde Tian qui charge 7 épéistes de neutraliser Firewind. Voilà, donc évidemment, vous aurez reconnu un peu le
version
hommage à Samouraï. Alors, on retrouve là le... Bon, Soyark, il nous avait fait de la peine, hein, puisque en fait, après The Blade, qu'est-ce qu'il avait fait? Il est allé se compromettre avec deux merdes infâmes aux États-Unis. Ensuite, il est revenu...
Oh, il en a fait plus, il en a fait 3 ou 4, hein, carrément.
Non, 2.
Quoi.
Aux États-Unis, il en a fait 2. Il a fait double team qui s'est achevé dans le Colisée avec Mickey Rourke,
ouais,
contre
super,
les tigres.
Super.
Et piège à Hong Kong avec Van Damme qui se fait fouetter les fesses par serpent.
Super.
Ah, ça c'est grand, ça magnifique, c'est grand.
Magnifique.
Voilà.
Enfin, faut pas trop le dire, hein, sinon Jean-Claude va venir nous fesser.
Oui. Et ensuite, il est retourné à Hong Kong pour réaliser Time and Tide, qui était quand même assez monstrueux. Et après, on sait pas ce qu'il lui a pris. Il s'est dit, tiens, c'est génial le numérique, il faudrait que j'essaie le numérique. Alors, il a fait Black Mask 2, qui est une bouse énorme. Et ainsi que Legend of Zoo, il s'est dit, tiens, on va faire un remake, une suite à mon film qui m'a rendu célèbre. Et puis, c'était aussi nul. Alors là, et ben, effectivement, il revient au combat non câblé, pas de numérique. Que de la poussière et des mecs en tenue, on sait pas trop comment ils nouent leurs vêtements, mais c'est du sauvage, c'est du barbare.
Mais ça tient,
c'est le Soyark de The Blade. Yeah! Et alors, qu'est-ce qu'on a dans le film? Et ben, justement, je parlais des éclairages de SPL, et ben là, franchement, on revient au clair-obscur, c'est soit noir, soit blanc, c'est du Soyark, tu comprends pas trop ce qui se passe des fois à l'écran, parce que des fois, il filme un truc où il se passe rien, alors que l'action, elle est hors champ. Ça, c'est vraiment sa signature, il expérimente pas mal, en fait.
Oui, mais au moins, c'est pratique, tu sais, c'est comme dans les dessins animés pour les enfants, une grosse scène de violence, baston, hors cadre.
Voilà. Et donc voilà, donc ensuite le principe, ben, de toute façon, pourquoi est-ce que Soyark est revenu au film de Sabre? C'est parce qu'il y a un petit chieur à côté de la Chine continentale qui était venu, qui s'appelle Zhang Yimou, et qui avait fait Héros et Le Secret des Poignards Volants. Et Soyark, on le connaît parce qu'il aime pas qu'on lui dame le pion et qu'on lui dise, ouais, nous on s'est
non,
fait
revenir aussi bien que toi. Non, c'est moi!
Voilà. Alors pourquoi il avait fait Legend of Zoo? C'est parce qu'il a vu Storm Riders qui était sorti. Et pourquoi il a fait Seven Swords? C'est parce qu'il y a Héros et Le Secret des Poignards Volants qui sont sortis. Et alors là, quand tu vas sur les forums d'internet, tu vois les commentaires des mecs qui ont des skyblogs, ouais, c'est nul, c'est bonne sorte, parce que les combats de héros et Le Secret des Poignards Volants, c'est beaucoup mieux.
Non, Thomas, tu sais très bien qu'un skyblog, c'est quand on essaie de lire, c'est... C'est écrit en SMS.
Voilà. Alors, si vous comparez les deux, si vous comparez Seven Sword au film de Zhang Yimou, alors Seven Sword, c'est sa charcle, c'est les mecs, ils jurent que, comme des chartiers, ils courent de partout, etc. Héros, c'est Maggie Chung, Jet Li et tout, qui font 36 tours sur eux-mêmes avec des mouvements ralentis, avec des étoffes de partout. Yeah! Oh, le même plan avec un vêtement bleu. Oh, voilà. C'est ça, donc c'est chiant à mourir. Et c'est chaque centimètre carré de la pellicule est surchargé de lumière, de oh là là, qu'est-ce que c'est beau, les dégradés, oh là là. C'est d'un chiant. Alors là, on applaudit des deux mains le retour de Soyark. Alors, bon, c'est Soyark.
Oui, parce que d'une main entre nous.
Voilà, c'est du Soyark en même temps. Hein. C'est pas. Bon, il y a le mec qui est triste, il va pas y avoir un plan fixe de 30 secondes où le mec il est en train de penser. C'est chez Soyark. Donc le mec est triste, il dit je suis triste.
Oui, c'est du lyrisme quoi.
Voilà. Ils y vont à 150%. Le film il s'ouvre même pas sur le générique, c'est sur un gros plan de Mélier. Tiens, bizarre. Alors tu te dis tiens, j'ai loupé un truc, j'ai appuyé sur passage rapide au chapitre d'après. Non, non, ça commence comme ça. Alors voilà, bon, mais après les combats. Ça se rapproche un peu de The Blade, c'est-à-dire bon, on y reviendra après. Mais les combats, c'est des fois il y a des gens qui sortent du cadre. T'as le mec qui fait un mouvement, il est coupé, puis après t'as le plan d'après où le mouvement, il y a pas de raccord, il est fini, et puis le mec il s'écroule. Tu dis ah ouais, le mec est super fort, on a même pas vu ce qu'il a fait. Voilà. Et par contre, t'as le combat final, parce que dans tout mon film d'arts martiaux, même ceux de Soyark, il y a toujours un combat final énorme. Et là, ça se passe entre Donnie Yen, la nouvelle star martiale, enfin, la star martiale confirmée du moment à Hong Kong, contre le Firewind. Dans un couloir super étroit, ils sont obligés, un mec, avec une épée, ça passe pas. Ils sont obligés de se plier en quatre, ils font un grand écart sur le, oui, encore Van Damme, oui, sur un mur, et en tout cas, c'est, ils y vont à fond, c'est t'as des boulets de canon à un moment donné, t'as les armes, elles sont tellement spéciales que ça fait des courants d'air et les bombes les boulets risquent de frapper les murs. Enfin c'est indescriptible. C'est un film qui fait plaisir. La musique est faite signée Kenji Kawai, qui a quand même signé les musiques des Mamoru Oshii, Ghost in the Shell 1 et 2 et Ring. Ouais. Mais par contre là ça c'est plus
attention, c'est le Ring américain.
Non, le Ring 1, il a fait. Le Ring japonais.
Il faut que je revoie la fiche technique, alors.
Mais par contre, c'est le Kenji Kawai d'Avalon qu'on retrouve plus ici, avec des orchestrations très très proches du film sur la réalité virtuelle de Oshii. Alors, au final, on a un film sauvage qui est épique, mais un tout petit peu long, qui fait 2h20. Quand tu aimes Soyark et quand tu aimes son style, franchement, tu les vois pas passer. La fin est extrêmement ouverte, puisque ça laisse augurer qu'il y aura peut-être une suite. Soyark, on sait que quand il fait des suites, il fait pas toutes les suites, alors peut-être qu'il produira seulement, on sait pas, peut-être qu'il y aura un nouveau poulain dans sa team. Donc, il s'agit de Seven Swords, c'est disponible en DVD chez Pathé Vidéo, un film du grand Soyark avec Donnie Yen, Leon Lai, Lucha Liang et Charlie Young.
Et la pub!
Et on commence, ça c'est du sport, par le dopage. Thierry Roland s'est fait serrer par la volante en possession de Viagra, un médicament uniquement vendu sur ordonnance et...
Tous les samedis 13h, le podium des dopés de la semaine, c'est sur FMR.
Ouais, surtout n'écoutez pas du sport, il y connaît méchanceté.
Lundi 30 octobre, Toulouse sera la halte française du Reggae Live Tour. Une programmation majestueuse avec Razit, Warrior King, Tony Rebel, Abyssinians, Black Uru et Gregory Isaac. Trois générations nourries à la weed se succéderont donc sur la scène du Havana Café lundi 30 octobre. C'est le Reggae Live Tour.
It's my only weapon.
Lord of Mercy, Polly Bow, Kanja Smoker, Bom Bom, Clapula, Jah Love Rastafari, Sin.
And it's my salvation.
Et moi aussi, je te le
fais. Who shall I be afraid of?
Et on revient.
Alors du sport, tu vas me consacrer un petit peu d'attention, puisque je vais quelque chose du sac.
Non non, mais là le problème c'est quand il a entendu parler de reggae, ça lui fait couper tous ses moyens, il fait penser à son copain Poupa Christopher. Le fromage de chèvre.
Alors attention, je compte sur vous pour décrire ce que je vais sortir du sac.
Ouais ouais. Attention, la main est dans le sac.
Ça c'est de la radio.
La main sort du sac.
Elle sort un sac aux couleurs d'une supérette.
Et deuxième sac de protection, n'est-ce pas?
Oui, ça laisse augurer quand même que l'objet dedans ne doit pas être bousillé dans le sac.
Un troisième sac de protection. Bah dis donc,
oui.
Là tu peux y aller là. Ah oui, c'est le coffret.
Le coffret The Blade limité.
Voilà. Ah, je dois avouer quand même. Très alors, beau packaging, ouais. Au format bouquin.
Regarde, Xavier, bien là, la pochette là. Non, de l'autre côté, voilà.
Ouais.
Tu vois le sabre? Tu vois la gueule du sabre?
Oui.
Rien qu'à voir la gueule du sabre, tu peux te dire que ça va être excellent, que c'est super bon.
Alors la gueule du sabre, c'est un...
C'est le sabre cassé, c'est le sabre qui est brisé en fait.
Le sabre brisé, il n'y a aucune ornementation ni rien, c'est le sabre brut de décoffrage.
Voilà.
Alors est-ce que la table est propre pour que je puisse le poser?
Utiliser les fiches d'émission.
Maintenant, voilà. Je vais ouvrir le coffret.
Alors d'accord, donc c'est un coffret donc en carton qu'on vous explique.
En
donc,
carton qui s'ouvre, plastifié, oui.
Voilà, qui s'ouvre par le haut, d'accord, ok. Il y a un livret avec... la même couverture.
C'est bien épais quand même. Hein.
Ah ben c'est
en papier plastifié.
Les photos couleurs.
Voilà, avec les articles écrits par l'équipe de HK Magazine.
Oui, on a vraiment l'impression que c'est un magazine qu'on a que tu es en train d'ouvrir là. Mais c'est vraiment beau en plus. Hein. Avec une dominante blanc, noir, rouge.
Ouf. Et... Alors, un article signé Julien Carbon et David Martinez.
Bah ouais, pourquoi pas. Hein,
inévitable.
Les ex de HK, de toute façon, quoi.
Et une interview de Tchoumanchouk réalisée par Julien Carbon et Laurent Courtiot qui sont venus s'expatrier à Hong Kong.
Partis à Hong Kong depuis vachement de temps et qui ont participé justement à l'aventure de HK en étant directement sur place, quoi. C'est-à-dire, c'était les envoyés spéciaux à l'époque. Ils étaient déjà installés à Hong Kong quand HK sortait, était édité, donc.
Exactement, ils ont scénarisé certains films de Soyark et...
Ils ont fait Heroes, quoi, justement. C'est eux qui ont fait le scénario de Heroes, me semble-t-il, non?
Heroes, ça me dit rien, mais... ils ont scénarisé Running Out of Time de Johnito,
ouais,
plus Black Mask 2.
Michel Yeo aussi, quoi.
Ah oui, le Gardien du Manuscrit Sacré, peut-être. Ou le Talisman.
Ouais, le Talisman, voilà, c'est ça.
Ouais. C'est certainement ça, oui. Ensuite, il n'y a pas que ce livret.
Il sort un deuxième bouquin, regarde. Les cartes, les fiches, carrément. C'est les cartes, c'est les fiches de Monsieur Cinéma. Non,
voilà. Non.
C'est des cartes cartonnées.
C'est ce qu'on appelle du press kit qui généralement, et vous savez, c'est des cartes des photos de films qui sont exposées dans les salles de cinéma. Punaise, ouf. Ah, les captures sont absolument magnifiques.
La petite fiche qui va avec. Parce que quand vous l'achetez, c'est plastifié, donc ça c'est au dos du coffret.
Ouais, ça c'est normal.
Donc
le
c'est
dos
à conserver.
De normale, quoi. Il y a un DVD quand même dedans.
Oui.
Oui, parce qu'on l'a pas trop vu juste
ça,
là.
Ça c'est le DVD édition simple.
D'accord,
vous pouvez le trouver
en digipack.
Voilà.
En digipack à double couverture, ok.
Ouais.
Alors, elle, contrairement à ce que vous pensez, elle tient une épée. Hein. Elle est en train de se faire bousiller la gueule plutôt. Voilà.
Oui, magnifique déjà.
Et dedans, puisque c'est le collector, il y a quand même un deuxième DVD compris dans le pack.
Ah ouais, bien vu, ouais. Bien
d'accord.
Vu,
ouais. Donc on peut dire, ouais, je te prête le DVD. On prête en fait un DVD qui ressemble furieusement à celui qui est vendu en édition simple.
Voilà, à l'intérieur d'un pack énorme, très joli, avec des cartes, un livret et un très beau packaging.
D'accord. C'est quoi la différence de multiple entre les deux en prix?
Je pense que le collector, ça fait quelques temps qu'il est sorti, il doit être à 20, un peu plus de 20 euros. Et
c'est pas excessif. Hein,
ah, punaise,
et le coffret un peu plus cher, mais pas excessif non plus. Il approche même pas les 40 euros. C'était entre 25 et 35 à mon avis. Puisque moi je l'avais acheté, mais je me souviens plus exactement. Le jour de la sortie d'ailleurs. Alors on va parler effectivement de The Blade. Mais alors évidemment, comme c'est un film absolument énorme qui date de 10 ans maintenant de Soyark, on va pas Enfin, moi, personnellement, je vais pas trop parler du film. Je vais surtout parler des bonus géniaux qu'il y a à l'intérieur de du DVD, deuxième DVD collector. Alors, on va quand même signaler que le film en question, c'est un film de Soyark sorti en 95 avec Chu Manchuk et Hung Yanyan, qu'on avait pu voir aussi dans la saga de Était une fois en Chine. Et d'ailleurs, cette équipe s'est retrouvée tous ensemble pour faire Le Vincent Chinois. Où c'est la même chose, mais avec des mets culinaires. Et c'est, voilà, on l'a dit, c'est une édition DVD chez HK Vidéo.
Ouais, ça date de l'époque où, justement, il y avait Jet Li qui s'était fâché avec,
avec Soyark,
notre ami Soyark, et donc il avait fallu trouver un remplaçant. Alors, donc, au départ, ils avaient pris Chu Manchuk, qui était aussi pas mal, mais enfin qui était vachement moins expressif et moins joli à regarder. Mais
c'est brouillé avec aussi.
ouais, c'était par défaut quoi. Mais seulement, bon, c'était un très bon artiste martial. Et donc c'est lui qui a enchaîné d'abord l'Était une fois en Chine, oui. les épisodes suivants. Après le Lotus Blanc, je crois.
Je crois que le 3, il y a aussi du 3. Le 4 et le 5, je crois.
Il a fait le 4 et le 5. Et donc dans la foulée, après, il a fait The Blade, mais c'était plus ou moins par défaut parce que il avait déjà dans ses papiers Soyark. Et puis il y avait déjà Jet Li. Qui devait faire le rôle principal.
Oui.
Ça s'est pas fait. Et moi, je trouve qu'on y gagne un petit peu d'ailleurs, quoi, parce que moi, j'aime bien Chu Manchuk dans The Blade en particulier. Quoi.
Ah oui, absolument énorme. Alors, vous préférez évidemment la VO, puisque la VF, il faut savoir que le personnage du manchot est doublé par le doubleur de Steve Sanders de Beverly Hills. Donc, ça te coupe absolument tous les faits.
Oh merde!
Alors, le film est une relecture hommage au film One Arm Swordman de Chang Che qui a été réalisé à la fin des années 60, qui s'appelle Un seul bras les tue à tous en VF. Et sachez que vous pouvez aussi retrouver la trilogie du guerrier manchot en coffret DVD chez Shaw Brothers. Et là, vous avez évidemment le troisième épisode qui est La Rage du Tigre. The Blade, pourquoi est-ce que c'est si énorme? C'est parce que Soyark, il a explosé toute la façon de filmer les Wook Japan, le film de sabre chinois. C'est-à-dire que c'est ce que t'apprends, effectivement, ce que vous apprenez dans les bonus, où pendant une heure, il y a Soyark, le chorégraphe qui joue le méchant aussi dans le film, et l'assistant réalisateur et scénariste du film, explique que Soyark, il faut savoir qu'il est né au Vietnam et il a réalisé quelques documentaires aux États-Unis, il a étudié le cinéma aux États-Unis, ensuite il est revenu à Hong Kong à la fin des années 70 pour faire la carrière qu'on sait, et il a donc un passé documentariste. Et il voulait retrouver une forme de cinéma vérité dans ce film. Après, il a dit que c'était plutôt BD vérité, puisque pas vraiment réel.
C'est ça. Sympa pour la BD, oui.
Voilà. Et il a dit à son chef opérateur, alors, tu t'embarrasses pas de faire comme on fait d'habitude, c'est pas aux acteurs de jouer quand la caméra tourne, tu regardes un peu ce qui se passe sur le plateau et tu shootes quand tu veux. Tu shootes quand tu veux, tu fais le point en direct pendant que ça tourne, je m'en fous, tu fais un peu le style documentaire. S'il y a les gens qui sortent du cadre pendant les chorégraphies, on s'en fout, tu les laisses sortir du cadre, on coupe pas, tu continues à shooter, et ça, c'est ce qui donne ces chorégraphies si brutales. Et ça renforce la technique martiale du sabre manchot, puisqu'il a perdu un bras, il a un sabre brisé, c'est-à-dire que tout l'équilibre est revu. Et ça, justement,
il a perdu son bras, et puis son bras qui doit réapprendre, mais de l'autre bras, du bras gauche, celui qui est pas son vrai bras, en fait.
Exactement.
Hein, tu vois, donc double difficulté, mon gars.
Et voilà, et ce qui renforce son côté imprévisible et insaisissable, c'est que à un moment donné dans les combats, tu le vois disparaître du champ de la caméra à droite, il revient vers la gauche. Alors on voit vraiment qu'il tourne, et c'est une gestion de l'espace qui est absolument sidérante. Et justement, ça va dans le sens ce que disait du sport, c'est que Chu Manchuk s'est plaint pendant le tournage, il disait mais c'est pas possible qu'il perde son bras gauche plutôt, parce que là c'est pas possible. Il passait son temps à se casser la gueule, ils ont tourné pendant des orages de nuit, ils étaient dans la boue, il avait des sandales à la japonaise, il passait
des kétailles, oh putain.
C'était vraiment du n'importe quoi. Il disait oh là là. Soyark leur a demandé de porter vraiment les coups, parce qu'il n'y avait pas de doublure, pas de câblage, pas de numérique. Donc, il portait les coups. Le méchant, il a vomi sur le tournage tellement il se prenait de beigne. Il était assommé, il a dû demander plusieurs pauses successives puisqu'il n'en pouvait plus. Chu Manchuk a dit que c'était une horreur. De toute façon, il y a demi-mot au début, mais à la fin, tu vois vraiment que c'est un tournage catastrophique, apocalyptique, enfin tout ce que tu veux. Soyark n'a pas cherché à chercher la cohésion dans le tournage, tant et si bien que à la dernière prise, tu sais, dans les films hongkongais, t'as toujours dans les films hollywoodiens, ouais, et on applaudit, c'est le dernier jour de tournage.
ouais, ouais,
c'était merveilleux. Là, ce qu'il a fait chez Yark, c'est que ah bah c'est fini, allez hop, il s'est retourné, cassos, voiture, allez hop. Pas de fête, pas d'applaudissements derrière, il y a tout le monde qui s'est retrouvé comme de rond de flanc. Voilà, c'est Yark qui est parti, et ce n'est que plus, 2 ans après, quand ils ont tourné à Nice double team avec son assistant réalisateur, que Yark a effectivement avoué, putain, on a fait du bon boulot sur ce film. Il a jamais remercié quiconque, jamais félicité, ouais, c'est le bonhomme aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Alors oui, alors le chorégraphe, Jung Yan, non, un peu à la con. Et c'est le gars chauve tatoué qui est dans le film.
Ouais, il est très bon lui aussi, hein, de toute façon.
Oui, énorme. Et il disait que Ark, c'était un peu son pote, enfin un collaborateur. Il avait déjà fait des films avec lui. Et il lui dit bon, on est en train de tourner un film, il faudrait que tu viennes là. Pourquoi faire? Ah ben pour tourner dans le film. Il arrive et puis c'est au moment de, il était habillé et tout, et au moment de tourner, qu'il s'aperçoit ah mais c'est moi le méchant. Ben vous faites chier, je joue toujours les rôles de méchant, je vais pas faire le gentil pour une fois. Non. Ok, c'est toi qui joues le rôle du méchant. Et alors il disait des fois ils ont traversé une semaine où sur le script était marqué fight. Il changeait les courriers à la dernière minute, les dialogues étaient réécrits à l'impro. Il laissait parler les comédiens et ensuite il réécrivait un petit peu par rapport à ce qu'ils avaient proposé. C'était un tournage vraiment chaotique. Mais tu es abasourdi devant les anecdotes qui te sortent. C'est que comment ils ont réussi à faire un film aussi énorme en ayant aussi peu préparé le film. Alors effectivement, c'est le genre de, c'est comme ça qu'ils procèdent à Hong Kong, mais ils font des films, ils font des films corrects et honnêtes, mais là, The Blade, comment ils ont pu faire, quoi?
Ouais, non, mais il faut dire que c'est aussi un scénario qui est vachement élaboré. Il y a plusieurs histoires à l'intérieur du film. Hein. Il y a l'histoire du sabreur manchot en tant que tel, mais il y a également l'histoire de l'amitié qu'il a avec l'autre, plus la nana. Hein, une nana qui tourne assez mal. Il y a l'histoire par rapport à l'école de Sam aussi, par rapport à la prostituée, hein, qui vraiment vient renchérir dans le scénario, hein, vient enrichir le scénario à fond les manettes. Hein, et, ce qui fait que c'est non pas seulement un film plaisant, parce que c'était pratiquement du jamais vu à l'époque. Mais au niveau film de sabre, il y avait plein d'innovations, hein, parce que Yark, c'est quand même un innovateur au niveau technique. Donc là, il expérimentait également d'autres techniques de filmage en ce qui concerne les combats de sabre et d'ustensiles associés, on va dire, hein, parce que dans The Blade, il n'y a pas que des sabres. Hein, ouais. Faut dire ce qu'il y a quand même.
Il y a des pièges à loups à bout de chaîne qui t'envoient à la gueule. C'était des armes avec des dents de scie aussi.
ça dépote. Et puis bon, l'histoire que Sabre Manchot a avec la femme qui retrouve
un analphabète
qui élève son cochon, enfin bon, ce qui donne une histoire vachement riche en fait, hein, et où tu vois après les combats de ça, mais bon, comme le bonus, hein, carrément, quoi, à l'intérieur de l'histoire, parce que bon, l'histoire vraiment se tient du début jusqu'à la fin. C'est assez marrant, hein, parce que bon, on sait que Choi Yark a toujours travaillé un petit peu dans l'immédiateté comme ça, écrivant très peu de trucs, et puis attends, on va faire comme ça maintenant, c'est bon, et puis
tiens, sans tuer le personnage principal comme ça pour voir,
quand tu vois le film, ça se ressent pas du tout, quoi, t'as pas du tout cette impression. Bon, bien sûr, il y a les histoires de caméra de film à genre champ, des petits trucs comme ça, mais enfin bon, ça c'est normal, c'est du Choi Yark, qu'il faut dire, et puis à part ça, ça passe à fond les manettes, quoi.
Et puis d'ailleurs, il raconte plusieurs anecdotes. Il disait il y a une scène de flashback où on voit le père du manchot qui a son fils sur le dos et qui doit faire face à plein d'assassins autour de lui, dont le méchant, et ils ont tourné avec un éclairage très rouge, et Sawyer disait
ça c'est l'allusion à Il était une fois dans l'Ouest, à fond les manettes,
pour contraster avec le reste du film, on va essayer de faire cette séquence sans aucun raccord, c'est-à-dire que d'un plan à l'autre on va changer l'éclairage, on va changer les acteurs de place, il faut pas, absolument pas qu'ils aient le moindre mouvement qui se poursuive d'un plan à l'autre. Et il était vachement déçu parce que, comme les acteurs y croyaient, en fait, il a dit, à partir du moment où les acteurs y croient et que l'émotion se dégage, en fait, les fautes de raccord, tu les vois plus. Et merde.
C'est un peu dommage.
Et alors, juste une dernière anecdote, puisque Chu Manchuk, il s'est brouillé un peu avec Shoyark, et c'était vraiment pas faux ce que disait du sport, puisque dans le film, on le voit, il montre moins ses sentiments, il est vraiment côté monolithique aussi, et Choyark n'arrêtait pas de lui dire mais montre un peu plus, livre-toi un peu plus. Il faut savoir que Chu Manchuk, sur le tournage, il était tombé amoureux de l'actrice Anita Mui, qui avait joué dans le Syndicat du Crime 3, qui était une immense star à l'époque, mais bon, depuis elle est décédée, et il était pendu à son portable tout le temps dans sur le tournage, et Chollard qui lui qui aime bien tourner dans l'urgence, oh putain. Voilà. Donc bon, un film énorme, voilà, The Blade, je crois que tu l'as pas vu, Xavier, toi.
Non, pas encore.
Bon, ben tu me laisses le remettre dans un boîtier à pourri pour pas l'abîmer, je te le file.
Ouais, ouais, mais si tu consultes la liste des films sortis en 95, tu t'aperçois que c'est le meilleur film qui est sorti en 95, sans problème.
Alors qu'il a fait un bid énorme à Hong Kong.
Ouais.
Il disait que la campagne promo avait été bâclée, il y avait pas d'affiche, les gens savaient même pas que ce film sortait. Et alors qu'il est considéré comme l'un des plus grands films de sabre jamais fait à Hong Kong. Voilà.
Blade en édition luxe, donc chez HK Vidéo.
Chez HK Vidéo, alors vous avez deux éditions disponibles, ça c'est le coffret édition de luxe, et vous avez aussi le coffret normal, mais avec un très beau packaging de toute façon. The Blade de Tsui Hark.
h 52 sur la poubelle des radios. Du sport dans les starting blocks pour la chronique télé. Oh allez, le temps qui se chauffe.
Ouais, ça fait vraiment starting block là.
Tant qu'il se chauffe, moi je veux juste pousser un... Je veux juste bien me marrer puisque donc il y a lundi soir. Oui, non mais rapidement quoi, rapidement, juste pour dire parce que c'est le coup de gueule, de toute façon il est sur mon site et donc vous le retrouverez sur le site de la radio, voilà. C'était juste pour dire, moi j'ai osé regarder l'affaire Rainbow Warrior.
C'est bien.
J'ai trouvé quand même assez salaud que la seule image d'archive qu'ils aient trouvé d'homme politique, c'est celle où Fabius et Paul Kiles sur l'écran déshonore la République en révélant le complot et l'identité privée des agents secrets. J'ai trouvé quand même que c'était salaud, mais n'empêche, ils ont protégé l'identité de la principale collaboratrice de Laurent Fabius à l'époque, enfin de son frère, hein, Ségolène. Voilà, c'était assez méchant, et d'ailleurs ça a fait une audience qui était un peu décevante finalement, puisque ça a fait, si je me trompe, 6,5 millions de téléspectateurs, 25% de PDM. D'habitude TF1 fait plus de 30% en moyenne, et France 2 avec la première partie de Chirac a fait 20%, ce qui est honorable, et c'est, faut dire que c'était exceptionnel. C'était la première fois qu'il y avait un documentaire sur un président encore en exercice, c'était, et pas encore mort.
Et c'était énorme, ce documentaire.
En plus sans concession, c'est assez étonnant.
Les phrases qui sortaient, les phrases qui étaient dites dans le parlement et tout, le mec qui dit je pensais qu'il était fait du marbre dont sont fait les statues, je me suis aperçu qu'il était fait du marbre dont sont fait les lavabos.
Ah oui, mais attention, là ça joue pour le prix de l'humour politique, hein. Accessoirement, moi, il y a une série que j'adore, c'est West Wing, et NBC a lancé une série à peu près dans le même principe, ça s'appelle Studio 60, qui est en cours de diffusion actuellement, c'est lundi soir à 22h heure de New York, où en fait, c'est l'histoire de la production d'un talk show du soir, un peu style Jay Leno pour citer de la même chaîne, ou Conan O'Brien, et ça a fait un bide. Pourtant il y a Matt Perry dedans, et le pilote avait fait 13 millions de spectateurs là-bas, et s'il tombe à 7, alors ils en sont qu'au 5ème épisode, ils se demandent s'ils vont continuer. Du sport,
il y avait déjà eu une excellente série sur le même thème, je me rappelle pas le nom, mais enfin bon, c'était vraiment quelque chose de très très bon, avec un super humoriste.
Là, c'est pas.
Là, j'ai un trou de mémoire.
Ah enfin, oui, non, c'est pareil, vieux,
hein,
c'est vieux.
Les coulisses de talk show.
Oui, en plus, c'est le nom du présentateur. J'ai oublié le nom. C'est pas Dreamer, c'est.
Non. Enfin bon, c'est absolument magnifique, de toute façon.
Voilà, sauf que là.
C'est difficile de faire.
Sauf que là, c'est pas un.
Aussi bien, quoi, je dirais.
C'est
quoi.
Pas humoristique, c'est justement sur le plan un peu plus tragique et quotidien, quoi. Donc voilà. Du sport.
Ah, Matthew Perry, oh voilà, ouais, j'ai compris. Non, j'étais pas dedans, quoi. Alors, t'as pas tellement apprécié le Spider-Man, j'ai l'impression, quoi.
C'est un Spider-Man dont j'ai pas vraiment l'habitude. C'est le Spider-Man des années 60-70, un peu Prime Sautier, tu vois.
Ouais, mais voilà.
Humoristique. Hein. Humoristique. Ouais, ouais. Moi, c'est vrai que je suis plus ce Spider-Man noir passé entre les mains de John Romita et tous les autres, quoi. C'est un peu normal.
Pas la même génération, quoi.
Ah, râle pas, du sport. Allez, vas-y, il est 12h56 là, on va pas s'en sortir.
54.
56. Je suis à l'heure.
Alors, un petit peu de série animée, puisqu'on est dans le monde de Marvel, eh ben on va y rester avec une série animée qui débarque. Je vous en ai déjà parlé et ça faisait partie de plusieurs petits articles dans le Comic Box de ces derniers mois. Hein, il s'agit de la série animée Les 4 Fantastiques, réalisée avec l'aval de Marvel, hein, c'est-à-dire c'est la série officielle animée des 4 Fantastiques, réalisée par le studio français Moonscoop, et c'est à la diffusion.
J'ai revu récemment Les 4 Fantastiques sur une chaîne du câble, la série originale, au secours qu'elle était nulle.
Ah non, non, c'était pas mal du tout.
Oh,
quoi.
C'était chier.
Si tu veux, je te prête le DVD. Je le connais, on l'a vu en boucle.
Tant que c'est pas le DVD du film.
Non, les dessins animés originaux. Les 4 Fantastiques, donc, c'est sur M6 à partir de mercredi prochain à 9h45, hein, dans les émissions pour gamins, bien entendu, avec dans chaque épisode eh bien, un guest star de l'univers Marvel, avec Hulk qui va venir, Iron Man, toute la bande, tout ça. Donc dans cette série qui s'appelle Les 4 Fantastiques.
On va pas le mettre entier, si.
Chauffe Travolta, chauffe.
Mais je pensais que t'allais mettre l'original. Bon, je vais te prêter le DVD, comme ça tu vas pouvoir repiquer l'original en anglais et tout, tu verras. Fantastic Four. Les 4 Fantastiques, donc nouvelle série animée, c'est mercredi, partir de mercredi prochain, donc sur M6 à 9h45. Je sais pas comment ça s'appelle, M6 Kid, je pense que c'est, ouais, c'est ça, M6 Kid, donc. Sinon, la grosse nouveauté quand même, la série qui débarque en cette fin octobre, début novembre, et qui risque d'être une bonne tranche de pétage de plomb et de rigolade, c'est cette série dont je vous ai déjà parlé à l'occasion des Emmy 2006, car ça a été nommé 9 nominations pour cette série. Et un Emmy, celui de la meilleure comédie, mon gars, pour une série qui vient de sortir, hein, ils en sont à la deuxième saison actuellement, c'est My Name is Earl, avec Jason Lee dans le rôle principal, Jason Lee qu'on a pu voir dans la version américaine de Vanilla Sky, ouvre les yeux, tu sais, Vanilla Sky. Là.
C'est le copain de Tom Cruise, il jouait.
Ouais, peut-être, je sais pas. Ouais, c'est possible. My Name is Earl, de quoi ça parle? Ça parle l'histoire d'un branleur, de son frère, qui habite dans une petite baraque, un espèce de petit truc en bois, qu'ils appellent maison de l'autre côté de l'Atlantique, là-bas, quoi, tu sais, quoi. Ils disent que c'est des maisons, mais enfin bon, c'est pas des trucs en dur, hein, tu vois. Et, qui n'a pas de boulot, qui passe son temps devant la télé à regarder des bières, peut-être fumer des pétards, mais enfin bon, ça c'est anecdotique. Enfin, tu vois, bon, vraiment, le branleur, la bande de branleurs. Et, il lui arrive dans sa vie, eh bien, de gagner au loto. Il va jouer au loto, il va gagner le gros lot. Manque de bol, ce qui va lui arriver sur le chemin du retour avec son ticket de loto gagnant, il va se faire renverser par une bagnole et il va paumer son ticket de loto. Et à partir de ce moment-là, il va complètement changer de mentalité. Il va développer une espèce d'état d'esprit zen, karmesque, si tu veux, dans le sens karma, quoi, en disant que s'il fait le bien un petit peu partout autour de lui, eh bien on lui rendra, quoi, ce bien qu'il fait aux autres. Et il va s'appliquer donc à mettre en pratique cette technique et ce vœu pieux, ce qui va faire que plus tard dans l'histoire il va retrouver son ticket de loto. Et plein de petites choses comme ça. Alors c'est un humour assez acerbe, mais bien dirigé. Généralement, quoi, c'est la description d'une Amérique qui est un petit peu déjante, un petit peu, tu vois, en train de craqueler, comme le vernis qui craquelle, quoi.
Ouais,
tu vois.
Ce qu'on appelle l'Amérique white trash, dont est issu Eminem et tout ça. C'est les classes sociales assez pauvres et blanches malgré tout.
Voilà. Donc voilà. Tout ça dans cette série qui s'appelle My Name Is Earl, et ça a été racheté. Et ça c'est très bien parce que Paris Première ne diffuse pas beaucoup de séries originelles, mais quand elle diffuse des séries, ils ont toujours des choix un petit peu pertinents, un petit peu dérangeants. On a vu ça avec Scrubs, on a vu ça avec Nip Tuck, et là il s'agit de My Name Is Earl, qui sera diffusé à partir de demain en fin d'après-midi sur Paris Première, 19h50, donc pour deux épisodes dans le pilote, hein, de My Name Is Earl, là c'est les formats 25 minutes. Et bon, comme c'est en plus sur Paris Première, donc c'est en version multilingue, donc possibilité de regarder en version originale. C'est rediffusé jeudi prochain à partir de 22h15. Sinon, dans le tout venant, eh bien, New York, une unité spéciale ce soir, 23h20 sur TF1, avec un épisode de la saison 7, le seul témoin, moins 12, et un épisode qu'on a déjà vu, mais qui est pas mal, hein, vraiment, qui est un peu dur quand même, il est moins 10, ça s'appelle La fin du voyage, avec comme invité Ming-Na. Ming-Na, c'est l'infirmière asiatique dans IR. Ouais. Là, je vais te dire, c'est pas du tout du IR, hein. Là, attention, c'est un peu plus dramatique. Sinon, dramatique également. Et là, quand même, c'est costaud, hein. Tu disais avant que, en ce qui concerne le documentaire de Rothman sur Chirac, c'était du jamais vu, un président d'exercice de son vivant.
Et là, en plus, on lui sort les belles casseroles d'ailleurs.
Ouais, ouais. Là, c'est également la première fois, je crois, qu'on s'occupe d'une affaire qui n'a jamais été élucidée et dont on tire des pas des conclusions, on va dire, mais une espèce de parti pris.
On peut pas puisque l'affaire ne peut pas être jugée. Donc
ouais, voilà. Ouais, un espèce de parti pris quand même. Hein, y a quand même une espèce de réhabilitation, on va dire, d'un côté par rapport à l'autre. Enfin, on jugera sur pièce. Il s'agit de cette affaire qui avait défloré la chronique à l'époque. Hein, c'est qui avait duré hyper longtemps.
Oh, hein, oui, ça n'avait pas
arrêté.
Dans
les années 80, c'était trop top. Tu vois, t'avais de la musique, tu le crois pas. Et en plus, t'avais l'affaire Vilma, le petit Grégory. Et il y avait d'ailleurs un groupe qui s'appelait Dead Gregories.
Oui, c'est vrai, de punk d'ailleurs.
Alors, comme c'est une histoire qui est quand même assez longue, hein, il y a eu 9 ans de procédure, hein, en vrai, donc hein, à partir de, je crois que c'était en 84 ou en 83, me semble-t-il, hein, que ça a débuté cette histoire, donc ça a duré hyper longtemps. Le coup de Bernard Laroche et tout, le mec qui descend avec le flingue, enfin bon, avec les rebondissements, tu sais.
Ouais, parce que c'est le père du fils qui est tué, qui débarque avec le flingue, qui est chauffé par le journaliste de je sais plus quel canard, je crois que c'était le nouveau détective, donc il va le flinguer et tout. Enfin, une histoire pas possible. La veuve qui revient dans Paris Match, où elle a vendu parce que ça coûte cher les frais d'avocat, donc elle a vendu son interview à Paris Match. Paris Match la montre comme une veuve joyeuse, donc ça, elle se fait descendre dans l'opinion populaire. C'est énorme, cette histoire.
Enfin, on fera confiance quand même à Raoul Peck, donc qui réalise cette mini-série, car il s'agit bien d'une mini-série, hein, quand même. Ouais. Il y a 6 épisodes d'1h20 à 1h30 chaque, donc ça va être diffusé sur 3 soirées à partir de ce soir, hein, sur France 3, 20h50, avec les 2 premiers épisodes de ce soir qui s'appellent La Foudre et La Meute. Le demain soir à 20h55, à partir de 20h55, toujours sur France 3, l'épisode 3 et l'épisode 4, L'Engrenage et Dérapage. Et enfin, lundi soir, le 5e et 6e épisode, La Traque et enfin L'Espoir. À signaler que l'histoire, l'affaire Vilma, dont s'inspire le scénario, c'est d'après le livre, qui est un petit peu à orientation, on va dire, hein, qui est plutôt du côté des époux Vilma, de Laurence Lacour, hein, qui va débarquer là-bas avec en tant que reporter d'Europe 1 pour suivre l'affaire, genre 3-4 jours et tout. Elle est restée 4 ans et tout. Elle a sorti un livre qui s'appelle Le Bûcher des Innocents, à propos de cette histoire-là.
C'est vrai que c'est assez important de le dire, c'est que justement par le fait qu'il y avait en continu des rebondissements, les journalistes étaient très 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 proches des protagonistes, prenaient littéralement fait et cause pour certains, et ça avait beaucoup troublé l'affaire d'ailleurs.
Ouais, en plus quand tu connais un petit peu le coin, je veux dire.
Ah, il n'y a pas beaucoup de distractions, donc ça
aide. Il n'y en a pas. Sinon, demain soir également, dans FBI Portée Disparue, parce que bon, demain soir, les experts, c'est des anciens, hein, qu'on a déjà vu pour la plupart. FBI Portée Disparue, demain soir, 20h55 sur France 2. 2 épisodes de la saison 4, donc 2 inédits, avec le premier Patient X interdit au moins de 10 ans avec Alison Smith et Michael Reilly Burke, et le deuxième Justice Expéditive avec Scott Holroyd et Keiko Agena. Dans Urgence, après FBI Porté Disparu, demain soir, c'est le retour du docteur Carter dans la saison 12, tu vois, et là on apprend où il était, pourquoi il s'était barré. Ben, il était au Darfour. On le saura donc demain soir avec les 2 épisodes où apparaît donc le docteur Carter, interprété par Noah Wyle. Être ou ne pas être, suivi de l'épisode qui s'appelle tout simplement Darfour. Il y a également demain soir, il y a la rediffusion d'une série de science-fiction qui s'est arrêtée très très vite, hein. C'était plutôt une commande sur un nombre déterminé au départ d'épisodes, je crois une vingtaine. Il s'agit de 2267, l'ultime croisade, qui est en fait une espèce de série dérivée de Babylon 5. avec plus ou moins quelques-uns des protagonistes de Babylon 5 qui partaient justement pour cette ultime croisade, dont le retour, c'est pas le retour parce que en fait c'est du spelling comme Wanted, la dernière qu'il a faite, et il y a également Gary Cole dedans. Mais là, Gary Cole, avant d'être vraiment l'enfoiré de facho, bon père américain qui va au baseball avec son fils et tout, et qui pense à traquer les méchants, ces enfoirés qu'il mérite de croupir en tôle, enfoiré. Gary Cole, donc, dans l'ultime croisade avec Tracy Scoding, c'est sur Syfy, demain soir à partir de 20h50, avec deux épisodes, dont le pilote. Et t'as vu ça? Mais t'as vu dans le programme de la semaine prochaine, Prison Break qui passe au mercredi, c'est fini le jeudi. Comme ça, j'aurais plus de soucis à me faire. Hein. Je pourrais regarder Prison Break et The Shield, tranquille. Ah. Tu vois.
Et oui, mais s'il y a du foot en même temps.
Le foot, qu'est-ce que tu veux. On verra. Le foot, c'est chiant pour l'instant. Alors bon, c'est pas la peine.
Attention, on enregistre. Vous pouvez réécouter, chercher dans les archives de FMR, c'est y rester pendant un bail.
Ouais, non, mais.
Celle-là, de cassette, elle va être au chaud.
C'est chiant quand il n'y a pas Juninho.
Non, mais t'as vu PSG Lyon ou
oui,
Lyon PSG
oui.
Ça y est, Lyon a déjà gagné. À Canal Plus, ils ont le choix. Soit des matchs nuls, soit qu'on est le vainqueur au bout d'un moment.
Ce qui était chiant, c'est qu'ils aient autant de coups francs et tu vois même pas un coup franc direct.
Oh, refais le match.
Tout ça donc pour Prison Break qui passe au mercredi sur M6, hein. Donc là c'est quand même choc full frontal, tu vois, de M6 à TF1, genre on programme du lourd, du ce qui est pratiquement notre programme le plus regardé de la chaîne, hein, Prison Break, dans ta gueule de match de la Ligue des Champions, tu vois, carrément c'est ça, tranquille. Et en plus on arrive au climax, c'est-à-dire on arrive à la fin de la première saison avec l'épisode 20 et l'épisode 21, donc il restera le 22 la semaine prochaine, dans le 20e sans retour, on n'apprend pas grand chose. Si, ça se précise. Et dans le 21e, il y a Lincoln, il veut pas sortir tôt là, il veut pas sortir de l'infirmerie et tout, donc ils peuvent pas s'évader. Alors donc il va falloir qu'ils prennent Stacy Kitsch en otage pour pouvoir aller aller délivrer Lincoln et le forcer à se barrer avec eux, puisque il faut le faire ce soir, sinon c'est pas possible. Ça c'est dans l'épisode 21, donc mercredi prochain, de Prison Break à partir de 20h50 sur M6. Il y a également ce qu'on pourrait appeler un espèce de jeu de chaise musicale, on va dire, avec des séries qu'on avait vues sur TF1, enfin diffusé un petit peu comme ça à l'emporte-pièce, en catimini le dimanche après-midi pour boucher les trous. Et là c'est une série qu'on peut voir sur TMC qui a d'ailleurs fait chaise musicale avec TF1 pour deux séries, hein, la première Dernier Recours et la deuxième Esprit Criminel. Ils rediffusent ça également, je crois que c'est le jeudi soir dans l'ordre, donc c'est intéressant, ça va être bien de regarder à partir de jeudi prochain comment se forme l'équipe, comment ils se connaissent et tout ça. Enfin, truc normal, hein, quand tu regardes une série, et pas prendre un épisode lambda parce que simplement, ouais, il est bien trash celui-là, tu vas voir et tout. En plus, il y a des canons, il y a des nanas à poil dedans, tu vas voir, ça va faire de l'audience, mon gars, quoi. Non, la suite, logique, hein, un petit peu, quoi. Et là, il s'agit de Dernier Recours, une série également diffusée par TF1 le dimanche après-midi, je sais pas, vers 3h, 4h. Je vous en avais déjà parlé en début de saison. Cette série, c'est un petit peu le même genre, on va dire, que Cold Case, hein, les affaires classées, les petits trucs comme ça et tout. Et là, c'est pareil, hein, une espèce d'équipe formée de différents talents, un profileur, un juriste, un détective et toute la clique, qui sont chargés d'enquêter sur ce qui pourrait être des jugements tronqués ou des erreurs de jugement, des petites choses comme ça. Et donc avec le dernier cri de la technologie moderne, hein, bien sûr, parce que c'est une série très très récente, et donc ça donne une série qui est assez intéressante, hein, parce que justement scénaristiquement ils arrivent à dépasser le stade du gimmick. À chaque fois cas, il faut le résoudre, comment est-ce qu'on va faire, comment on va s'y prendre, c'est assez varié quand même. Et il y a justement scénaristiquement des rebondissements qui permettent aux intrigues de parfaitement fonctionner. Donc une série tout à fait regardable, c'est ce Dernier Recours avec Jason O'Mara, Kyle MacLachlan bien sûr, hein, qui joue le rôle du grand frère, Daniel Cosgrove, Constance Zimmer, mercredi prochain à partir de 20h45, en même temps que Prison Break, avec le pilote, donc 13 ans de malheur, et un autre épisode qui s'appelle Tout pour mon frère. Voilà pour les
alors j'ai
séries.
Pas rêvé CSI Miami l'ont déprogrammé là la dernière fois et ça n'était plus à la télé. J'ai perdu au ratio.
Ouais ouais mais enfin bon on rediffusait des trucs qu'on avait déjà vus avec ce fameux crossover et tout bon
Il était déjà passé le crossover
oui. Bah ouais il était justement il était passé
pour introduire
CSI Manhattan.
Mais Manhattan il est pas diffusé sur TF1 si
non si, non si. Il est plus diffusé
il
maintenant,
est plus
enfin,
diffusé bon. Mais
ah mais il a été avant
ouais, oui.
Ah je suis à ramasse désolé.
Non mais t'as pas loupé grand chose c'est que de la pub hein.
Sinon, au niveau cinéma, ça faisait longtemps que je vous avais pas fait les programmations de RTL9. Tu te rappelles du bon vieux temps?
Puissance là, catch?
Ouais.
WFMR?
Exactement, puisque je vous propose la deuxième partie de soirée sur RTL9 avec il y a des films pas mal quand même. Franchement, hein, ils auraient pu trouver mieux difficile, on va dire. Car ce soir, ça démarre avec...
Attends. Il y a une musique d'intro quand même.
Ce soir, donc, ça démarre avec un super gros classique de l'horreur qui tue et qui saigne à fond les manettes dans tous les sens du terme. C'est Carrie, le film de Palma. Moins 16 quand même à la télé, hein, de 76 avec Sissi Spacek, Piper Laurie, Amy Irving, William Cat, hein, qu'on a vu dans notre film d'horreur, il joue dans House également. Mmh. Et c'est également le factotum de Raymond Burr dans Perry Mason. Ah, le d'accord. Mec, il va faire tous les trucs et tout.
Ah oui,
quoi.
C'est le blond.
Voilà, le blond. D'accord. Voilà.
Et il y a Travolta aussi dans Carrie.
Ouais, mais bon, dans un petit rôle, hein, on va dire. C'est tant
c'est
mieux.
Travolta,
c'est tant
même.
Mieux. Ah ouais. Dimanche soir à 22h50. Alors, Carrie, c'est ce soir à 22h45. Demain soir à 22h50, La créature du cimetière, un film de Ralph Singleton de 90, moins 12 quand même avec David Andrews, Kelly Wolf et Stephen Mark, d'après une nouvelle de Stephen King. Lundi. Là, c'est du lourd, du tatoué, du pinheadé, on va dire, hein, à 22h35, Hellraiser 2, les écorchés. Moins 16, hein, de Tony Randall, c'est complètement britannique en plus, hein, de 88 avec Larry Hintz, Ashley Lawrence. Mardi, une petite curiosité qui vaudra le coup d'être vue, car il s'agit d'un film réalisé par le réalisateur qui, pour l'instant, est celui qui a fait le film le plus explosif, qui a pété tous les scores, hein, qui va être détrôné peut-être bientôt.
Cameron.
Mais, ouais. Qui avait tourné en 80 Piranha 2, les tueurs volants. Parce que je sais pas si tu te rappelles, dans le premier Piranha, il reste dans la flotte. si.
Et là, il vole.
Et là, bah ouais, ils ont des ailes, des piranhas volants, comme des poissons volants, tu vois, quoi. Et blah, comme ça. Et ils sont dans la barque et puis ils croient qu'ils sont en sûreté. Puis blah, tu sais, parce que dans le premier, ils laissent tremper les bras.
Comme quoi Darwin, Darwin ne se doutait pas quand même de la puissance des scénaristes hollywoodiens pour faire muter les espèces.
Bah, c'est pas du tout hollywoodien, hein. C'est une coproduction américano-italienne.
Bon, de toute façon, c'est Roger Corman, de toute façon, ça.
Non, c'est James Cameron, mon gars.
Oui, mais c'est Roger Corman qui a produit.
Peut-être.
Ouais, il était sous l'égide de Roger Corman avant qu'il fasse Terminator.
Ouais. Donc c'est quand même estampillé moins 12 avec Tricia O'Neill, Lance Erickson et Leslie Grave. C'est mardi prochain, donc à 23h, donc un des premiers films de James Cameron. Mercredi, un gros classique de Steven Seagal, Menace Toxique de Félix Henriquez Alcala, un de ces derniers. Bon film, on va dire, et encore bon.
Oui,
faut le dire vite.
Enfin, s'il a jamais fait des bons films. Hein.
Ouais, non, mais là, il vaut surtout parce que bon, au niveau casting, rien à dire, respect quand même avec Marg Helgenberger. Ah, les experts, la blonde dans les experts,
ah,
mon
oui,
gars.
D'accord.
Ouais, la plus jeune en plus, quoi, tu vois. Chris Christopherson, Harry Dean Stanton et Levon Helm. Avec Levon Helm et Chris Christopherson, ça fait deux musiciens, quoi, tu vois. Trois avec Steven Seagal.
Non, qu'on ne reparle plus de son album de country zen. Bouddhiste, c'est India.
Si. Alors jeudi, effectivement, c'est catch hein, sur RTL9 en deuxième partie de soirée. Et vendredi, c'est Q à 22h40 avec Sex House. Vas-y, cherche.
Cherche ton alerte Q là.
Non.
Vendredi prochain, donc à 22h40, Sex House, qui est une série érotique de Rick Deckard.
Une série érotique.
Oui, il passe aussi Sex Files sur RTL9.
Non, Sex Files, c'est sur Sci-Fi.
Non, ça passe aussi sur RTL9.
Alors maintenant quelques petits classiques quand même dans cette sélection hein, pour avoir l'air un petit peu.
Je remercierai jamais assez Laurent Taupin de passer ce de m'avoir passé ce remix qui est quasiment exclusif.
Il est terrible, il est terrible hein, en plus. Hein, tu pourrais le laisser là.
Mais on est le seul à l'avoir.
Ouais. Allez, un petit peu de cinéma classique pour avoir l'air un petit peu plus intelligent, quoi. Pas tout le temps con et.
On va faire du cultureux.
Ouais, du cultureux. Tu vois. Du avec comme prochainement, bah, je crois que c'est mercredi prochain que sort le dernier film de Guillermo del Toro, Le Labyrinthe de Pan. Eh bien là, excusez-moi, l'occasion de découvrir pour ceux qui le connaissent pas, bah, le film qu'il a fait découvrir en fait, hein, qui plein de gens qui l'ont vu ont
Chronos. Lâché
Chronos de 93, qui passe sur Canal+ ce soir à 20h50, Canal+ Cinéma. Demain soir sur Arte, la théma c'est Horst Buchholz avec un film tout d'abord de Billy Wilder de 61 qui s'appelle 1, 2, 3 avec James Cagney, Horst Buchholz bien sûr et Arlène Francis, suivi d'un documentaire à 22h30, Horst Buchholz, mon père, par Christopher Buchholz et Sandra Hacker. Sinon, demain soir, y a carrément une soirée sur Paris Première. Y a pas de problème, tu peux tout enregistrer hein, depuis la série My Name Is Earl à partir de 19h50 jusqu'à tard dans la nuit, parce qu'après c'est le programme de rêve quoi, carrément quoi. Tu as d'abord la petite série de 2 fois 25 minutes pour te mettre bien dans l'ambiance, tu vois. Après, t'as le film que c'est un gros classique, mais tu te pisses de rire quand même à chaque fois que tu le regardes. La partie de Black Edwards,
énorme,
de 68, suivi un petit peu plus tard dans la soirée d'un film qui te fait un peu plus réfléchir aux contingences de la vie et de la mort, Les Sentiers de la Gloire de Kubrick, le film de 57. Donc tout ça hein, sur Paris Première demain soir à partir de 19h50 pour My Name Is Earl. Sinon la partie c'est à 20h50 et Les Sentiers de la Gloire à 22h30 en version multilingue bien sûr. Lundi, Malédiction Damien, le retour.
C'est deux alors.
Non, parce que Ciné Cinéma Frisson vous propose carrément la tétralogie de la malédiction avec à 20h45 la malédiction, l'original de Richard Donner, donc 76 avec Gregory Peck et Lee Remick. Excellent, très bon, le moins doux. Bon, c'était quand même en deçà, on va dire, parce que pour tous les gens qui avaient vu l'exorciste est quand même vachement au-dessus quoi que de la malédiction, quoi, qui est sorti pratiquement à la même époque, tu vois, un an, deux ans près, quoi. Mais faut quand même reconnaître que c'est un bon film quoi. C'est bien rentre dedans quand même, c'est pas mal. À 22h35 donc Damien 2 de Don Taylor en 78, deux ans après le premier avec William Holden. Alors à chaque fois le casting a vachement changé, il y a que le gamin qui a été gardé pour les deux premiers, pas après ils ont pris un autre gamin qui ressemblait, enfin bon, laisse tomber hein, c'est pas la peine. À 0h20, La Malédiction Finale. Alors tous ceux-là ils sont moins 12 hein, de Gordon Baker en 80 avec Sam Neill et Rossano Brazzi. Enfin le quatrième à 2h10 du matin, La Malédiction 4 qui n'est qu'un téléfilm mais également moins 12. Tout ça donc lundi prochain sur Cinéma Frisson, la soirée Malédiction. On termine avec Arte, tu vois, là, on fait culturel à fond et tout. Avec jeudi prochain, un spécial Paul McCartney. Avec le film Hard Day's Night, c'est-à-dire 4 garçons dans le vent de Richard Lester. Bah, Richard Lester, quand même, hein, tu vois, il a fait même des trucs comme ça, quoi. En 64, hein, le film qui les a fait un petit peu connaître, on va dire, à peine. Et suivi à 22h10, un truc qui peut être plus intéressant pour ceux qui connaissent un petit peu le personnage, c'est Paul McCartney à. Ah, ben, il faut dire Sir. Pardon,
oui,
pardon, faut dire
il
ça.
Est
anobli. Depuis le temps qu'il est anobli, oui, quoi. Putain, attends, ouais. À Abbey Road, donc le studio, ils ont enregistré plusieurs disques. Enfin,
tous leurs disques. Hein.
Non, tu rigoles, toi.
Il y avait le studio EMI avant qu'ils aillent à Abbey Road.
Attends.
Oh, je dis une bêtise.
Bon, le dernier, Let It Be, où tu vois, qui sont sur Abbey Road et tout. Enfin, bon. Mais ça a été enregistré l'année dernière, en juillet 2005, avec quelques petits invités comme ça, quoi, pour qui viennent pour taper le bœuf. Donc ça peut être intéressant, hein, quand même. Parce que bon, Maca, c'est pas n'importe qui, hein. Faut dire, quand même, c'est Maca, quoi, tu vois, quoi. Et tout ça, c'est jeudi soir sur Arte. Vendredi soir sur Arte, là, on termine avec un gros chef-d'œuvre, quand même. Tout d'abord, à 22h10, dans le cadre des excellentes soirées documentaires, enfin, tous les vendredis soirs. Deuxième partie de soirée après le téléfilm. inédits, généralement assez bons. Vous avez un documentaire, ça peut être sur tout n'importe quoi, généralement c'est sur un sujet culturel, on va dire. Et là, il s'agit de l'expressionnisme allemand. C'est un truc tout neuf hein, qui vient d'être sorti. Donc, tout ça suivi à 23h15 d'un des films phares, on va dire, hein, de cette période expressionniste allemande, Le Testament du Docteur Mabuse de Fritz Lang, 1933, juste avant qu'il se tire, tu vois. Il a fait ce film, il s'est barré après.
Il avait de quoi. Hein. Fallait mieux pour lui qu'il
soit. Ouais, mais enfin bon, d'un autre côté, on lui proposait un pont d'or, vas-y, il n'y a pas de problème et tout. Sa femme, qui était
scénariste, co-scénariste, nazi,
ouais. Ouais, co-scénariste de tous ses films, hein, ils avaient fait depuis La femme sur la lune en 1927, les films muets, donc Lang, donc, elle travaille avec elle, hein, c'était sa muse, son égérie et tout, mais elle a carrément viré vraiment nazi. Oui. C'est-à-dire, ouais, dès les premiers temps, allez, vas-y, on y va, super, ça va être cool et tout. Et lui, il était vachement plus circonspect. Et donc, il s'est tiré un petit peu en catimini, on va dire, aux États-Unis, en passant par l'Angleterre. Mais bon, c'est le dernier film qu'ils aient fait ensemble, hein, le scénario de Théa von Arbou et de Fritz Lang, donc, pour ce deuxième Mabuse, avec toujours Rudolf Kleinrogge dans le rôle de Mabuse et Otto Wernicke dans le rôle du commissaire Lohmann. Tout ça, c'est la semaine prochaine, vendredi prochain, 23h15, Le Testament du Docteur Mabuse.
Je crois que le lendemain, je vais avoir du mal pour faire mon émission. Et donc c'est ainsi, je pense que tu termines.
Yes.
D'accord. Ah bah on y va alors. C'était le supplément week-end du samedi 28 octobre 2006. Programme assez allumé et tranquille. Juste une chose, j'ai oublié de le signaler. D'accord, on fait 25 ans de la radio, mais il y a quelqu'un qui avait fait beaucoup de bruit il y a, oula, plus que ça, il y a 35 ans. Il revient. Mandrika, il est en dédicace le vendredi 17 novembre pour le nouveau concombre masqué. On va essayer de l'avoir en interview, donc écoutez bien Radio FMR parce que là, vraiment, on va se battre pour l'avoir. Ça vaut le coup. Et ceci dit, eh ben, vous allez manquer le début de supplément week-end. Oh, c'est pas grave. Qu'est-ce qui s'est-il passé donc, Thomas ?
Le procès verbal de l'émission a commencé par un CD oublié. Il y a eu une news sur les départs de Trondheim et Svar qui sont cassés de l'association. On a eu dans le rôle pour le. On a eu du jeu de rôle avec dans le rôle du barbare, du sport, dans le rôle du nain, Xavier, dans le rôle de l'elfe, moi-même, et du film de sabre chinois et du programme TV.
Et vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission sur le site internet de la radio www.radio-fmr.net. Laissez-nous le temps, enfin c'est à partir de dimanche, et sinon vous tomberez sur notre site où là vous pourrez réécouter toutes les émissions depuis le début de supplément week-end et même vous y abonner pour l'écouter tranquillement sur votre baladeur au bureau le lundi, c'est toujours sympa. Et que voulez-vous ?
N'hésitez pas à mettre des commentaires sur les BD que nous aurions fait découvrir via l'émission.
Et quand même, il y a pas mal de gens qui nous écoutent ou qui nous lisent, donc ça fait toujours plaisir, puisqu'en fait, les chroniques BD sont écrites et on peut retomber dessus. Donc vous pouvez, si vraiment vous trouvez qu'on a trop massacré un film ou qu'on a oublié des trucs intéressants, bah, n'hésitez pas à écouter.
Ou tout simplement qu'on a dit des conneries, qu'on est passé à côté. Hein.
Ah ça, on n'est absolument pas innocent de ce côté-là. Voilà, je vous laisse de suite. Avec du sport, la suite des programmes avec à 15h Poupa Christopher, 17h Vie d'ordure et tout le reste c'est sur Radio FMR 89.1 MHz. Ciao, bye, rendez-vous samedi prochain.
Salut.